Vous écoutez RTL.
Bonjour Vincent Prier.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes chercheur associé au Muséum d'Histoire Naturelle. C'est quoi un mollusque? On va commencer par la définition, tout simplement.
Alors, c'est une histoire évolutive. C'est une branche de l'arbre du vivant.
Oui.
Donc, après, ça s'est diversifié. Et donc, il y a des mollusques qui ont plein de formes différentes. Donc, c'est assez difficile de donner...
Vous nous faites une petite liste de quelques mollusques, là, pour savoir à peu près de quoi on parle.
Tout le monde connaît les huîtres. Donc là, c'est la classe des bivalves. Tout le monde connaît les pieuvres et les calmars. Ce sont les céphalopodes.
Mmh.
Et puis après, il y a des groupes beaucoup moins connus, comme les... Bon, il y a les gastéropodes, évidemment, les escargots. Ça, tout le monde connaît aussi.
Mmh.
Et puis, il y a les codophovéates, les solénogastres, les scaphopodes, dont personne n'a jamais entendu parler.
C'est génial. On se ferait dans un Tintin avec des insultes du capitaine Haddock. Allez, on vous fait découvrir le monde merveilleux des mollusques sur RTL. Restez avec nous.
À marée basse, les huîtres sont à découvert et les voleurs jamais très loin.
RTL.
Mais cela, c'était avant que Romaric veille sur les 90 hectares du parc.
14h-15h.
Avec sa lampe de poche, chaque nuit, Romaric sillonne ce parc ostréicole.
La curiosité est un vilain défaut.
Des vols qui pouvaient atteindre plusieurs tonnes et les butins plusieurs milliers d'euros.
Il y avait déjà les vols d'huîtres pour inquiéter les ostréiculteurs, mais il y a une dizaine de jours sur RTL, en écoutant la revue de presse d'Amandine Bégaud, on s'est dit avec curiosité, mais qu'est-ce que c'est? Les ostréiculteurs inquiets pour la production d'huîtres à deux mois des fêtes. C'est aussi pour ça qu'on vous a invité, Vincent Prier. Je rappelle que vous êtes chercheur associé au Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous êtes directeur de recherche également chez Biotop Édition. Alors cette histoire d'huîtres, il y a un vrai risque?
Alors, moi, je suis pas du tout spécialiste des huîtres et encore moins de l'ostréiculture, mais effectivement, apparemment, il y a cette année des mortalités importantes des adultes qui seraient liées au climat. Et donc, c'est quelque chose qui s'ajoute, qui va sûrement être... il y aura sûrement des recherches pour essayer de définir exactement les causes, mais ça s'ajoute en tout cas au virus des huîtres qui décime, lui, le naissin.
Donc il y avait déjà les bébés qui étaient attaqués.
Voilà.
Et là, ça touche les adultes. Là, 25% de surmortalité, c'est ça?
Oui, apparemment, c'est ce que j'ai lu aussi. Bon, on verra si c'est confirmé. Mais en tout cas, il y a un effet du climat. Et cet effet du climat, il est encore plus important pour, justement, le virus des huîtres. Puisque là, il y a des études récentes qui montrent que le virus est vraiment virulent entre 16 et 29 degrés, je crois. Donc plus les eaux se réchauffent, plus la période de virulence du virus s'allonge. Et donc, on a un lien direct avec le réchauffement climatique aujourd'hui sur cette problématique-là.
Bon, Vincent Prier, est-ce que vous êtes malacologue?
Oui, c'est ça, c'est le terme. C'est le terme qu'on utilise.
Alors, ça veut dire quoi?
Ça vient de malakia, qui veut dire mou en grec.
D'accord.
Donc, le malacologue, c'est le scientifique qui s'intéresse aux mollusques, mais plutôt aux mollusques dans ce qu'ils ont de vivant. Alors qu'on a le conchyologue qui est plutôt un collectionneur de coquilles, de concos, la coquille.
Parce que mollusque, là aussi, c'est y a molle dedans, c'est logique, c'est les corps
mous.
C'est
ça, c'est la même racine, c'est les corps mous. Effectivement, le mollusque, ils ont pas de squelette interne.
Mm-hmm.
Ils ont une coquille à la place.
Alors, il y a un autre phénomène inquiétant, parler des huîtres, c'est, alors j'apprends plein de mots grâce à vous, l'anodonte chinois. C'est quoi l'anodonte chinois?
L'anodonte chinoise.
Ah, chinoise, c'est une femelle. Bonjour madame.
Donc les anodontes sont des bivalves, donc des moules d'eau douce, dont on a plusieurs espèces en France. Et on a effectivement cette anodonte chinoise qui est apparue il y a une vingtaine d'années maintenant à peu près, transporté par des poissons. Alors, je vous expliquerai pourquoi il y a un lien entre les moules et les poissons. Elle s'est introduite dans des piscicultures du côté de Lyon, probablement, peut-être un peu plus au sud, du côté d'Arles. Et elle s'est échappée. Et là, aujourd'hui, elle colonise toutes les rivières de France à une vitesse incroyable. C'est-à-dire que...
Ah, ça fait partie des espèces invasives. On parle souvent du frelon asiatique, par exemple, etc. C'est un peu la même chose, mais
version aquatique. Qui colonise tous les cours d'eau.
Oui.
Alors, les cours d'eau, normalement, ils sont isolés les uns des autres. Quand on est dans la Loire, on ne doit pas pouvoir aller dans la Seine. Mais aujourd'hui, on a établi des canaux partout. Donc, on a mis en relation tous ces fleuves de France, ce qui fait qu'il y a des routes pour les espèces envahissantes qui sont toutes tracées par les canaux. Donc, ça colonise de proche en proche et ça va très, très vite.
Alors, pourquoi vous nous dites que les moules et les poissons ont quelque chose à voir ensemble?
Alors, les anodontes,
expliquez-moi ça.
Comme la plupart des grands bivalves d'eau douce, elles utilisent un poisson hôte pour se reproduire. Donc pour la reproduction, on a un mâle et une femelle qui sont dans la rivière. Évidemment, ces animaux se déplacent pas, donc faut pas imaginer un accouplement.
Ouais.
Les spermatozoïdes sont relâchés dans l'eau, ils vont être captés par la femelle. La reproduction a lieu à l'intérieur de la femelle, qui elle a ses ovules. Elle va porter des œufs et donner une larve qu'on appelle la glochidie. Alors la glochidie, ça ressemble un peu à une double coquille de noix, un petit Pac-Man, qui a quelques heures pour rencontrer un poisson, le bon, celui qu'il lui faut, et se fixer dessus. Donc en fait, elle va être ingérée par le poisson, passer dans les branchies et niap.
Elle se colle.
Elle mord.
Carrément.
Elle mord les branchies.
Oui.
Et elle fait un espèce de kyste, un bouton, dans lequel elle va maturer pendant des périodes qui vont de 2 semaines à quelques mois. Et au terme de cette maturation, elle se métamorphose, elle devient un bébé moule qui va tomber là où est le poisson. Et donc finalement, pour un animal qui va presque pas bouger tout au long de sa vie, les premiers stades sont extrêmement mobiles. Parce qu'avec le poisson, elle peut faire des kilomètres comme ça. Et c'est comme ça qu'elle colonise de nouveaux milieux. Et c'est comme ça que la nodente chinoise, avec son poisson, va aller très très vite dans les cours d'eau de France et coloniser. Une fois qu'elle est dans un bassin versant, ça se répand comme une traînée de poudre.
Mais ça, c'est vrai, pas seulement pour cette espèce de moule, c'est pour toutes les espèces.
On va dire pour toutes les grandes espèces de moules, c'est comme ça que ça marche. Ouais.
Elles ont besoin d'un poisson pour grandir,
voilà,
si j'ai bien compris.
Voilà, elles se métamorphosent dans un poisson, donc elles ont un stade de parasite.
Alors, on a parlé des huîtres, on a parlé des moules. Les céphalopodes, c'est quoi exactement ?
Alors, les céphalopodes...
On est là encore dans les mollusques. Hein.
Oui, tout à fait. Donc, pour le dire rapidement, c'est les sèches, les pieuvres et les calmars. Donc, les sèches avec leur coquille, l'os de sèche, les calmars avec un vestige de coquille qui est la plume de calmar, et les pieuvres qui n'ont plus du tout de coquille. Et puis, pour être précis, il faut rajouter celles qui vraiment avaient des vraies coquilles, qui sont les ammonites. Les ammonites, donc un groupe fossile qui a disparu aujourd'hui, mais dont on retrouve ces espèces de spirales en forme d'escargot. Là, ça, c'était des ammonites. Donc, à la sortie de ce fossile en forme d'escargot, en fait, on n'avait pas un escargot, on avait une pieuvre avec des tentacules.
Bon, on a encore plein de questions à vous poser, Vincent Prier. Par exemple, parce qu'il y a plein de mots qui nous intriguent, les bivalves. Comment ça marche, une bivalve?
Un bivalve.
Ou un bivalve. Ah bah ouais, mais bon, on pourrait savoir. Il y a du masculin, il y a du féminin. Bon, bah c'est bonjour monsieur, là. Alors, le bivalve. On va vous le présenter dans un instant sur RTL.
Oui, vous voulez des bigorneaux ? Vous voulez des bigorneaux ?
RTL. Sur les 60 000 tonnes de moules produites chaque année en France, 50 000 sont des moules de bouchot.
La curiosité est un vilain défaut.
Avec Anaïs Bouton et Thomas Hugues.
14h46 sur RTL. Merci d'avoir choisi la première radio de France. Merci d'être fidèle à la curiosité. Vous le savez, ici, on aime beaucoup la science, la nature, les animaux, découvrir les pouvoirs étonnants des animaux. On s'est dit, pourquoi pas les mollusques. Et on a trouvé notre malacologue, Vincent Prier, spécialiste des mollusques. Déjà, on a appris ce mot. Donc, merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes chercheur associé au Muséum National d'Histoire Naturelle et que vous travaillez aussi pour les éditions Biotope. C'est ça,
oui,
je ne me trompe pas, pour
biotope.
Le bureau d'études biotopes, voilà, ouais. soyons précis. C'est quoi le point commun des mollusques ? Parce que vous nous avez décrit des espèces qui semblent très différentes les unes des autres.
Alors il y a quelques points particuliers, donc c'est une organisation avec une tête, une masse viscérale et un pied. Mmh. Et ce qui est particulier, donc ce pied déjà, c'est assez unique. Ça ressemble un peu à une langue ou alors à une sole, enfin, c'est quelque chose qui est vraiment typique des mollusques. Et surtout, il y a le manteau. Le manteau, c'est une enveloppe de peau qui recouvre tout ça. Mmh. Et qui produit la coquille, quand il y en a.
Parce que tous les mollusques n'ont pas de coquille.
Non, alors que les mollusques qui n'ont pas de coquille, c'est une perte en fait. C'est-à-dire que leurs ancêtres en avaient et ils s'en sont débarrassés petit à petit.
Je vais dire par exemple une limace, une limace c'est un mollusque.
Une limace c'est un escargot dont la coquille a régressé au cours du temps. Et il y a tous les stades d'ailleurs aujourd'hui, hein. Il y a des escargots qui ont des coquilles très petites qui n'arrivent pas à rentrer complètement dedans. Il y a ce qu'on va appeler des limaces qui ont une petite coquille apparente à l'arrière. Il y a des limaces qui ont une coquille interne qui ne protège plus que le cœur. Et puis il y en a qui ont complètement perdu la coquille.
Alors comme promis, je voudrais qu'on découvre les bivalves maintenant. Donc un bivalve.
Un bivalve.
Alors c'est quoi ?
Eh ben, en gros, c'est une moule. C'est tout ce qu'on appelle les moules. La plupart des coquillages sont des bivalves. Et donc, moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est les bivalves d'eau douce. Alors, la majeure partie des bivalves sont des espèces aquatiques. Mais il y a dans le monde à peu près 1200 espèces de bivalves d'eau douce.
Mais pourquoi on dit bivalve ? Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire deux valves.
Oui, d'accord. Mais ça fonctionne comment ?
Eh ben, ces deux valves fonctionnent un peu comme deux mains qui seraient réunies dans une attitude de prière, avec une charnière. Donc elles sont accrochées l'une à l'autre. Et puis des muscles qui vont permettre de fermer tout ça. Donc c'est pour sa protection en fait.
Pour sa protection ou alors ça... Alors je pose vraiment des questions de béotien, j'y connais rien. Ça leur sert à quoi ? À respirer éventuellement ? À chasser ? À quoi ça leur sert ?
Pas du tout, c'est vraiment la protection. Et ils n'ont pas de squelette. Donc, ils ont ce qu'on appelle un exosquelette chez les crevettes, par exemple, les crustacés, qui ont une coque. Et il faut bien tenir toute cette masse de muscles. Il faut bien que les muscles puissent s'accrocher quelque part. Chez les bivalves, ça s'accroche sur ces deux valves, ces deux coquilles, qui sont là uniquement pour la protection et qui se referment et qui s'ouvrent à volonté. Et tout ce qui est nutrition, respiration, se produit à l'intérieur de la coquille avec des branchies.
Alors, parmi les histoires qui nous ont vraiment étonnés en préparant cette émission sur les mollusques, il y en a une qui concerne Marine Médicis et une robe très particulière.
Voilà. Donc, à l'époque, on utilisait des perles de moules d'eau douce. On ne connaissait pas les perles de moules de mer. Ouais. Et donc, il y avait énormément de pêcheurs de perles de moules d'eau douce. C'était une activité et une richesse importante. Et y a une espèce particulièrement qui était visée, c'était la mulette perlière. C'est celle qui produit le plus de perles. Mais en moyenne, c'est un individu sur 1000, voire un individu sur 3000 qui vont avoir une perle. Donc pour avoir une perle, il faut en tuer 1000.
D'accord.
Et la robe de Marie de Médicis, elle avait 32 000 perles.
32 000 perles, donc il a fallu...
Il a fallu tuer au moins 40 millions de moules pour arriver à ces 32 000 perles. Et il y avait les couronnes, et il y avait tout ça. Et donc cette espèce-là a régressé énormément à cause de la surpêche. C'est le seul mollusque d'eau douce qui ait vraiment subi une surpêche comme ça.
Alors vous publiez ce livre, Naïades et autres bivalves d'eau douce de France, publié chez Biotope Éditions, Vincent Prier. Les moules, vous nous avez expliqué qu'elles se reproduisent notamment, enfin elles se reproduisent en envoyant leurs semences dans l'eau et puis le mâle le fait, la femelle la récupère et ensuite les tout petits bébés se fichent dans un poisson pour ensuite grandir dans les branchies du poisson. La coquille, comment les mollusques se fabriquent cette coquille ?
Alors c'est le manteau. Le manteau, c'est vraiment l'organe qui fabrique la coquille. Alors on voit pas bien ce que c'est parce que c'est juste une langue de peau qui est sous la coquille. Mais par exemple, quand on ouvre une huître et qu'on met un peu de citron, c'est ce petit liseré noir qui va se rétracter sous l'effet du citron.
Voilà, d'accord.
On connaît ça. Ça, c'est le manteau. Et sur la marge du manteau, il y a production de la coquille de proche en proche. C'est-à-dire que la coquille n'arrête pas de grandir à partir de la charnière. Et sur l'extérieur de la coquille, elle grandit en permanence, le manteau la produit en permanence.
Ça prend combien de temps, une huître, à fabriquer sa protection, en fait ?
C'est une croissance continue, donc la réponse est difficile. Et puis ça va dépendre des espèces. Il y a des espèces qui grandissent très très vite. La nanodonte chinoise, par exemple, elle va atteindre la taille de 20 cm, même un peu plus, en quelques années. Et puis il y a d'autres espèces, au contraire, comme la mulette perlière, qui grandissent très très lentement, parce qu'elles sont dans des environnements très pauvres et très peu calcifié. Et donc, du coup, on a des bêtes qui vont atteindre une quinzaine de centimètres en 280 ans.
RTL.
À la pêche, moule, je ne peux plus y aller, maman.
Bon, tu vas me faire le méli-mélo de Saint-Jacques ?
Jusqu'à 15h.
Tu t'emmerdes à la maison, tu viens bouffer ici et t'as le spectacle assuré. Hein.
Attends, Cancale, moi je demande toujours des huîtres de Bourgogne.
Vous avez bien raison.
Ah, pour ces effets, non ? Ça va, les gars du coin, les gars de Cancale, ils font la gueule, hein ?
Ah oui ?
Ah, bah oui. Ils préfèrent vendre leur saloperie de chez eux.
Ah oui, c'est le merdier maintenant, là, avec l'Europe.
La curiosité est un vilain défaut.
Je ne félicite pas pour une fois notre réalisateur François Touchard qui n'a pas pu échapper à la pêche aux moules pour une émission sur les mollusques, franchement. Hein, il y a eu plus d'imagination de temps en temps. Mais Chevalier Las Palès, les huîtres de Bourgogne, c'est quand même pas mal. On est toujours avec le chercheur Vincent Prier. Je rappelle que vous êtes chercheur au Muséum d'Histoire Naturelle, directeur de recherche chez Biotope. C'est un bureau d'études, ça sert à quoi ça, Biotope ?
C'est un bureau d'études spécialisé faune, flore, environnement, dont le cœur de métier est de réaliser des études d'impact lorsqu'il y a des grands aménagements, que ce soit des éoliennes, des trains, des autoroutes.
C'est-à-dire quoi ? Vous vérifiez ?
On vérifie que en fait, le projet soit en conformité avec la loi, c'est-à-dire, pour le faire simplement, qu'il ne tue pas d'espèces protégées, qu'il ne détruise pas d'espèces patrimoniales.
Oui. Donc on va sur le terrain. Ce qui oblige à faire un grand détour.
il y a plusieurs moyens d'aménagement des projets pour.
Alors avec vous, on découvre les super pouvoirs de ces mollusques, vous nous l'avez dit, il y a plusieurs grandes familles, et notamment les pieuvres, poulpes, calmars, donc ça c'est la famille des
céphalopodes.
Et là on peut parler de super pouvoirs aussi.
Il y a des trucs très étonnants chez ces animaux, il y en a des très très grands. Le calmar géant mesure à peu près 20 mètres, c'est une espèce actuelle, elle pèse 250 kilos. Il y a des calmars qui sont capables de voler, donc qui s'échappent un peu à la manière des poissons volants, qui échappent à leurs prédateurs en surgissant hors de l'eau et en planant pendant 20 ou 30 mètres.
Ils se déploient en quelque sorte.
Ouais, c'est ça. Ils déploient leurs tentacules et leurs nageoires à l'arrière et ça fait un espèce de cerf-volant là, qui peut planer sur une vingtaine de mètres au-dessus de l'eau.
Vous avez déjà assisté à ce spectacle
ou
c'est difficile
ça,
de voir ça.
Ça a été découvert il n'y a pas très longtemps et ça a été filmé d'avion et il y a quelques images mais non, c'est très difficile à voir.
Donc la possibilité, donc calmar géant, calmar volant et calmar luminescent, on a ça aussi,
ça.
Vous avez ça en magasin?
Oui, il y a des espèces de profondeur qui créent de la bioluminescence. Donc, ils sont capables de devenir brillants. Mais bon, il y a aussi des petits escargots terrestres qui font ça. Hein. En Asie du Sud-Est, il y a des petits escargots qui brillent la nuit. Certains qui flashent.
Ça leur sert à quoi?
Alors, le flash, on n'a pas bien compris. Parce que, a priori, ce serait un moyen de communication entre eux. Mais ce n'est pas encore vraiment élucidé.
Oui.
Ça peut être des moyens de défense. Il y a un escargot comme ça qui a une coquille translucide qui brille. Et en brillant, on a l'impression qu'il est beaucoup plus gros.
Mmh.
Donc c'est le moyen de défense.
On dit que les Grecs ont inventé la vis après avoir longuement observé la coquille d'un gastéropode, d'un escargot ou équivalent. Est-ce que vous y croyez à ça?
Alors on dit beaucoup de choses sur les Grecs. Je pense que tout n'est pas à prendre au pied de la lettre. Oui. J'en sais rien du tout.
Mais il y a une ressemblance quand même.
Oui, mais c'est la spirale. Et la spirale, elle a été inventée plein de fois dans le monde animal. Et elle a été reproduite par l'homme pour des raisons. Oui, les vis par exemple, les tournedisques aussi.
Les escargots, quel super pouvoir ils ont?
Ah, il y en a plein. Il y en a qui... Il y a des escargots fermiers, par exemple. Il y a un bigorneau qui cultive des champignons sur des débris végétaux et qui garde un petit peu son petit champ comme ça et qui l'ensemence avec ses propres fesses et qui se nourrit là-dessus. Il y a des escargots qui sont tout petits. Il y a des escargots aminocera. Ça fait 0,5 mm à l'âge adulte. Il y a des escargots qui, au contraire, sont grands. Il y a un bénitier qui... Pas un bénitier, un escargot aquatique qui fait 90 cm de long et qui pèse 18 kg.
C'est surprenant. Merci beaucoup. Merci Vincent Prier d'être venu nous parler des mollusques. Je rappelle ce livre, Naïades et autres bivalves d'eau douce de France, publié chez Biotope Édition. Merci.
Merci.
À bientôt.
Beaucoup.
Thomas Hugues, Anaïs Bouton.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.